Vous êtes les bienvenus, messieurs, dames, par la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Mais tout d'abord, les grands titres. Le caucus de gouverneurs africains s'est clôturé jeudi à Kinshasa. Les ministres africains des finances et gouverneurs de banques centrales ont renouvelé leur désir de voir l'Afrique encore bien représentée au conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Ils se sont aussi engagés à lutter contre les incidences de la dette européenne. La santé économique et financière de la RDC de plus en plus embellie en 2012 qu'en 2011. C'est le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi, qui l'a dit le week-end dernier au cours d'un point de presse vendredi passé à son cabinet de travail. C'est une embellie soutenue par une bonne croissance, un marché de biens et services stable et un marché de change stable. Panorama économique revient également sur la quatrième session des directeurs de la douane congolaise tenue le week-end passé et la paye des fonctionnaires de l'État qui se fera désormais par la voie bancaire. Jérôme Sekana est avec nous dans ce studio pour des commentaires et analyses. Jérôme Sekana est journaliste économique. Jérôme, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour Daniel.
Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni et Paul Matendo pour vous présenter la rétrospective de la semaine. Bienvenue à tous.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, les assises du caucus africain édition 2012 se sont clôturées jeudi soir à Kinshasa. Dans leur déclaration finale, les participants ont plaidé pour plus de financement encore au bénéfice du renforcement des pôles énergétiques en Afrique, dont les projets Inga 3 et le Grand Inga sont également concernés. Plus de détails avec vous à Gatipona.
Comme dans la déclaration finale du précédent caucus, cette recommandation à l'endroit des partenaires financiers que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a été reconduite. Il faut dire que le projet du pool énergétique de Lampangar au Cameroun connaît, grâce au plaidoyer du caucus africain de 2011, un début d'exécution. Daniel Moukoko-Samba, vice-premier ministre en charge du budget, représentant du premier ministre à la clôture du forum.
Parmi les projets énergétiques intégrateurs qui avaient été retenus, un premier projet est en cours de démarrage, celui de Lampangar au Cameroun. C'est ici le lieu pour moi de féliciter l'ensemble des gouverneurs pour ces succès, qui représentent un résultat tangible des efforts menés par votre organisation au cours de ces dernières années.
Il s'est dit donc impatient de voir se concrétiser les projets Inga 3 et Grand Inga au bénéfice de la RDC et d'une bonne partie de l'Afrique. En outre, les gouverneurs africains accrédités auprès des institutions de Bretton Woods ont convenu de stimuler la croissance agricole en Afrique, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'industrie manufacturière et d'accroître le nombre de cadres africains à tous les échelons de ces institutions. Ces recommandations serviront donc de documents de plaidoyer africains auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Merci Agathe. Retour sur ce plateau de Panorama économique où nous recevons Jérôme Sekana pour des analyses et commentaires de l'actualité économique de la semaine. Encore une fois, Jérôme, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous avez activement pris part à cette 12e édition du caucus. Agathe a fait son compte-rendu. Vous y ajoutez certainement quelque chose avec les oreilles et les yeux de journalistes qui vous ont conduit pendant ces travaux.
Oui, en tout cas, la première chose que je dois souligner ici, c'est que les travaux se sont très bien déroulés. Et sur le plan organisationnel, il y a eu des améliorations par rapport aux assises de l'année dernière. Le gouvernement a mis le boucher double au point que les participants venus des quatre coins de l'Afrique ont félicité le gouvernement congolais et les comités organisateurs, et ça c'est une chose. Et l'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est que le mémorandum des gouverneurs africains qui sont gouverneurs au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a été rédigé. Il sera présenté aux assises de Tokyo.
Il n'est pas différent de celui de la session passée.
Il est un peu différent. Il est un peu différent dans la mesure mesure où, vous savez, lorsque on crie, vous êtes au bord d'une rivière, que vous attendez une embarcation, une pirogue qui doit venir de l'autre côté, et tant que la pirogue que vous attendez n'est pas encore arrivée, vous ne voyez personne bouger de l'autre côté de la rivière, vous allez continuer à crier. Et ça a bougé dans la mesure où il y a déjà la concrétisation dans l'élément de
tout à l'heure. Début
d'exécution
du projet Lompanga.
Oui, Lompanga au Cameroun, mais aussi en République démocratique du Congo, parce que l'investissement du projet Inga 3 et du grand Inga est en marche. Les études de faisabilité nécessitent quelque chose comme 100 millions de dollars américains, et le projet en lui-même pour l'exécution complète, c'est entre 7,5 et 8 milliards de dollars américains.
C'est beaucoup d'argent.
Les pays africains ont accepté de mettre la main à la poche, de contribuer quelque chose d'abord, mais en attendant bien sûr que les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, puissent mettre la main à la poche, mais aussi les privés, parce que ça nécessite 7 milliards et demi ou 8 milliards de dollars, ce n'est pas peu d'argent. Donc c'est ça qui prouve à suffisance qu'il y a eu quand même une avancée, ce qui a été décidé l'année dernière, et commence à être mise en application, c'est déjà une petite avancée. Alors, il y a aussi le dossier en rapport avec l'agriculture. Vous vous souvenez, la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre.
Du ventre, l'alimentaire.
La Chine l'a fait, l'Inde l'a fait, et tant qu'on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas prétendre se développer normalement. L'Afrique est tributaire des importations alimentaires qui viennent d'Asie.
Et dans ce sens, les gouverneurs africains ont proposé quoi ?
Dans ce sens, d'abord, ils ont proposé à ce qu'on investisse massivement dans ce secteur, parce que c'est un secteur porteur de croissance, pour deux raisons. La première raison, c'est que ce secteur peut absorber facilement le chômage. Il y a un problème sérieux en Afrique, le taux de chômage est très élevé, et les secteurs agricole, c'est un secteur qui est capable d'absorber, si on retrousse les manches, les jeunes qui sont au chômage, s'ils retournent travailler la terre, eh bien, les jeunes peuvent trouver facilement de l'emploi, d'où la nécessité d'investir massivement là-dedans. Et puis, un autre élément, c'est que quand on investit dans les secteurs agricoles, non seulement on peut aboutir à l'autosuffisance alimentaire, mais également, on peut booster la croissance, parce qu'il y a des effets multiplicateurs dans d'autres secteurs. C'est pour cette raison, ils ont dit, écoutez, nous pouvons avoir plusieurs projets, mais cette fois-ci, concentrons nos efforts, investissons dans les domaines agricoles. Et là, le gouvernement congolais a quand même réussi à faire quelque chose. Vous vous souvenez, le premier ministre Matata était au plateau des Bateke dernièrement pour lancer la campagne agricole avec à la clé 22 millions de dollars américains. C'est quelque chose auquel on n'assistait plus depuis très longtemps et qui revient. C'est une bonne chose, mais les participants à ces assises ont insisté sur le fait qu'il ne suffit pas seulement d'investir, de produire, mais il faut investir dans l'éducation. C'est-à-dire, il faut avoir des instituts ou des écoles agricoles qui font des recherches. Et ils ont donné l'exemple des États-Unis qui comptent 50 institutions de recherche qui font qui travaillent au jour le jour. Il faut irriguer nos espaces verts et faire en sorte qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire.
Merci, Jérôme. Le temps de prendre le deuxième dossier de la semaine qui lui est consacré au point de presse du ministre délégué aux Finances de vendredi. La santé économique et financière de la RDC est marquée par une embellie. Devant le journaliste Patrice Kitebi, il a dit que la croissance économique de la RDC est de plus en plus soutenue en 2012 qu'en 2011. Elle est marquée, selon lui, par la stabilité des prix, la stabilité des marchés sur le marché de change et également les réserves internationales qui sont en hausse. Mais cette embellie contraste un peu avec la situation sociale de la population. Les détails avec vous, Paul Matendo.
La croissance économique en RDC à la fin de l'année 2012 atteindra 7,2%. Les prévisions des 6,6% ont été revues à la hausse. L'inflation a reculé pour se situer actuellement à environ 4,4% au niveau national et 6,9% sur le marché chinois. Le marché d'échange est demeuré stable et le franc congolais a même pris de la valeur depuis la mise en circulation du nouveau billet des francs congolais. Concernant les réserves internationales, elles se situent actuellement à plus de 1400 milliards de francs qui représentent près de 8 semaines d'importation de biens et services. Selon le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, le cap est maintenu pour la sauvegarde de la stabilité du cadre macroéconomique.
Le cap est maintenu grâce à la poursuite d'une gestion prudente des finances publiques. Cependant, le niveau de recettes doit être relevé davantage pour donner au gouvernement des moyens à la hauteur de l'ambition affichée dans son programme d'action 2012-2016. Le ministère des Finances s'y attelle déjà à travers l'exécution de la feuille de route correspondante.
Mais pourquoi cette amélioration du cadre macroéconomique n'est-elle pas ressentie dans les sociales du Congolais? Patrice Kitebi affirme qu'il faut voir les choses en face. Des efforts du gouvernement ont été faits pour stabiliser les prix ou même pour payer les fonctionnaires régulièrement, ce qui constitue un pas vers l'amélioration du social.
Il faut améliorer le social. Voilà, c'est ça le grand problème, Jérôme. Le cadre macroéconomique de la RDC en stabilité depuis un certain temps, on en parle, mais le contraste, justement, c'est celui-là. Le Congolais ne le ressent pas encore. Vous qui fouillez un peu dans ces histoires-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui le Congolais sente, quand on lui parle de la croissance en RDC, qu'il sente cela dans son assiette de chaque jour?
Oui, on parle pas seulement de la croissance, on parle de la croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance partagée, c'est-à-dire une croissance qui permet de créer de l'emploi, une croissance qui combat la pauvreté parce qu'il y a une bonne redistribution des richesses nationales.
Oui, alors, c'est la redistribution justement qui pose encore problème.
Nous étions au fond du puits et maintenant nous sommes en train de nous relever. On n'est pas encore sorti du puits. Souvenez-vous, on avait connu l'hyperinflation.
Mais ce discours-là, il passe difficilement auprès de la population.
Je vais vous donner quelques chiffres. Il n'y a pas très longtemps, on avait un produit intérieur brut de plus ou moins 7 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Du coup, le produit intérieur brut par tête d'habitant est de 267 dollars américains.
Ça veut dire quoi?
Cela veut dire que tout ce que nous produisons comme richesse est quantifié, et que si on divise au nombre de la population, chaque Congolais vit pendant une année en moyenne avec 267 dollars américains. Regardez autour de nous. Il y avait les professeurs d'université. Ils avaient quel salaire? Aujourd'hui, ils touchent quel salaire? Ils commencent même à acheter à crédit, bien sûr, les véhicules, les enseignants, ainsi de tout le monde. Il y a une petite augmentation quand même du niveau de vie. Regardez, nous avons 20 millions de téléphones portables en circulation en République démocratique du Congo. Les téléphones portables, là, on ne l'utilise pas comme ça parce qu'on a acquis la carte SIM. Il faut charger. Donc, il y a une petite
classe qui se crée.
C'est-à-dire une petite augmentation des richesses. Regardez, nous avons exporté plus ou moins 600 000 tonnes de cuivre en 2011 qui ont produit
mais
malheureusement...
Tout ça, c'est bien, mais il faudra encore prendre combien de temps pour que la situation vraiment change.
Pour que nous arrivions à obtenir des résultats concrets et de manière rapide, il faut que le taux de croissance économique atteigne deux chiffres, c'est-à-dire au-dessus de 10%. Or, il a bien dit dans le papier, nous avons terminé l'année avec un taux de croissance économique de 6,9, nous courons vers 7,2, il faut que nous fassions un effort tout en stabilisant les cadres macroéconomiques, en améliorant les climats des affaires, pour que nous puissions atteindre un taux de croissance économique à deux chiffres, c'est-à-dire 10%, 11%, 13%, comme les Ghana, pourquoi pas. En ce moment-là, il y aura une augmentation rapide des richesses, et si et seulement si, il y a une bonne redistribution. Il ne faudra pas qu'il y ait une croissance, notre croissance est assise sur le produits miniers. Malheureusement, ces produits miniers qui sont épuisables et puis ne profitent pas au maximum. Il y a des millions de dollars américains versés par les sociétés minières qui n'arrivent pas au trésor public. Donc, il faut arriver à maîtriser ces choses et faire une bonne redistribution. Tant qu'on n'aura pas encore atteint une croissance économique à deux chiffres, on ne pourra pas prétendre à un développement rapide. Parce que la croissance, c'est quoi? C'est tout simplement une variation positive des productions, des biens, mais également des services. Vous allez constater que Le nombre de magasins a augmenté à Kinshasa comme à l'intérieur. Les importations.
Plus par les expatriés, Jérôme.
Mais bien sûr, c'est dommage. Nous avions parlé de cela il n'y a pas très longtemps devant ce micro, que c'est quelque chose de déplorable. Mais au moins, on constate que le volume d'importation a sensiblement augmenté. La masse monétaire également a augmenté. La preuve, on a injecté des coupures à valeur faciale adaptées et vous avez senti que ça n'a pas bougé. Les taux d'inflation est sous contrôle. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Vous savez, nous ne faisons pas des complaisances.
C'est qu'il n'y a pas de sentiment de pessimiste. En tout cas, restons optimistes.
On est optimistes à condition que les bruits des bottes ne viennent pas déranger cette quiétude-là, cet élan qui nous mène vers une croissance à deux chiffres.
Nous allons parler des recettes tout de suite avec le premier semestre 2012 qui a permis à la douane congolaise de récolter environ 638 milliards de francs congolais. Pourtant, ces assignations pour 2012 s'élèvent à plus d'1,5 milliard de francs. Cette évaluation a été faite à l'occasion de la quatrième session des directeurs de la douane congolaise qui s'est tenue et clôturée vendredi dernier à Kinshasa. Nous retrouvons encore une fois Paul Matindo pour des explications.
Le budget assigné à cette régie cette année est de 1500 milliards de francs congolais. Ainsi, on peut dire qu'au premier semestre, à peine 42% a été réalisé puisque la DGDA n'a récolté que 638 milliards de francs congolais. Pour le second semestre, la DGDA doit donc réaliser 57,43% des recettes, soit plus de 861 milliards de francs d'ici la fin de l'année. Pour atteindre ces objectifs, le numéro 1 de la douane a affirmé qu'il faut s'engager dans la lutte contre la fraude et la corruption, poursuivre les réformes douanières, notamment l'informatisation des services et l'implantation des guichets uniques dans tous les grands bureaux de la douane. Notons que la quatrième session des directeurs de douane et accise avait pour objectif d'évaluer les niveaux de réalisation du budget des recettes douanières à la fin du premier semestre, de discuter des assignations budgétaires du second semestre et d'élaborer des stratégies pour les atteindre.
Merci encore une fois Paul et très rapidement avec Jérôme, les assignations de la douane congolaise sont encore, il y a encore du chemin pour atteindre ces assignations, 42% à peu près après le premier semestre.
Oui, je suis optimiste dans la mesure où la douane congolaise est bien dirigée aujourd'hui. De toutes les trois régies que nous avons, seule la DGDA atteint correctement les assignations. Il n'y a pas de crainte pour que l'équipe des DO Rouguiza ne puisse atteindre les assignations.
Je vais vous mettre de l'eau dans la bouche, Jérôme. Vous avez toujours lutté, vous, je vous le connais, vous avez initié une pétition pour le civisme fiscal, et aujourd'hui, la DGDA veut s'armer contre la fraude.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous le conseillez?
Non, la DGDA doit frapper, et peut-être vous ne le savez pas, de toutes les trois régies, la DGDA frappe. Le DG Deo Rouguiza Magera, avec ses deux adjoints, Carole Taladio et Mwepu Numbi, ne ménage aucun effort pour frapper. Il y a des directeurs, il y a des inspecteurs qui sont révoqués, qui sont sanctionnés quand ils trempent dans la corruption. Alors, la lutte contre la fraude, effectivement, est une stratégie très importante dans la mesure où les 800 61 milliards qui restent à mobiliser pour les semestres en cours, en tout cas, pourront être atteints si et seulement si on appuie sur les deux boutons, lutte contre la corruption et lutte contre la fraude, notamment la sous-évaluation et la mauvaise dénomination des marchandises.
Jérôme, peut-être avant de passer à une prochaine étape dans cette rétrospective de l'actualité, comment vous avez appris cette nouvelle, la paye des fonctionnaires de l'État par la voie bancaire?
Mais je suis très ravi. Vous savez qu'il y a des milliards de francs congolais qui restent comme reliquats. Il y avait des escrocs, des criminels économiques qui touchaient 10, 15, 20 salaires. Et je suis content parce que pour le moment ça traîne. Vous avez beaucoup de gens qui
viennent au même moment,
qui viennent au même moment, mais ça va disparaître de soi. Pourquoi? Parce que le gouvernement va demander aux banques commerciales de remettre des cartes, des crédits électroniques. Et chacun aura sa carte.
Peut passer à n'importe
des jours comme des nuits, devant des distributeurs des billets des banques, retirer son argent, où que vous soyez, même à l'étranger. Et c'est que les gens ne savent pas. Et chaque enseignant, chaque fonctionnaire recevra, lorsque la paye est réalisée, un SMS dans son téléphone qui lui dit « Voilà, votre compte est crédité d'autant ». Donc, c'est une innovation et ça va s'appliquer
bientôt là, avant la fin de l'année, pour la police et pour l'armée. Là, c'est la boîte à Pandore. Je vous dis, là, c'est des milliards et des milliards. Et la conséquence heureuse, c'est quoi? Ce que tous les reliquats là, tous ceux qui allaient dans les poches, les chantiers sont suspendus, hein, de tous ces voleurs là, pour le moment. Donc, cet argent là, on peut ajouter, qu'on peut injecter pour augmenter, ne serait-ce que légèrement, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, pourquoi pas les salaires égales, l'action des policiers et des militaires. Ouais. C'est ça la véritable révolution de la modernité. C'est une bonne chose.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité en plus bref, Paul. Hausse des prix de maïs sur le marché de Cabinda. Nous sommes au Kasaï occidental.
Oui, Daniel, selon la représentante des vendeuses, en deux semaines, les prix du maïs est passé de 1000 francs congolais à 1400 francs. Cette hausse est consécutive au mauvais état du pont Lukashii. Cabinda est ainsi coupé des centres d'approvisionnement en maïs situés à l'ouest de la cité.
Et le décret du chef de l'État de 2002 qui fixe à 4 le nombre de services devant opérer au poste frontalier n'est toujours pas respecté.
C'est ce qu'ont affirmé les opérateurs économiques de Mwanda lundi à Radio Okapi. Nous sommes à la frontière avec la province angolaise du Cabinda, en territoire de Mwanda à 200 km à l'ouest de Matadi. Selon eux, il existe à ce jour 12 services qui opèrent à ce poste frontalier. Comme conséquence, les tracasseries sont nombreuses et certains opérateurs économiques préfèrent quitter cette zone pour faire leurs affaires ailleurs. La Fédération des entreprises du Congo de Mwanda invite les autorités provinciales du Bas-Congo à faire appliquer ce décret du chef de l'État à tous les postes frontaliers du Bas-Congo.
Merci Paul. Retrouvons Jérôme Sekana qui commente l'actualité économique avec nous cette semaine. Jérôme, un mot placé sur cette série d'actu de la semaine.
Oui, en tout cas en ce qui concerne la hausse des prix de maïs à Cabinda, les infrastructures des bases sont au cœur des discussions des gouverneurs africains au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, dans la mesure où les infrastructures sont l'épine qu'il y a au pied de l'Afrique et qui empêche l'Afrique de pouvoir se déplacer et se développer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique, plus ou moins 10% seulement d'échanges, à cause du manque d'infrastructures. Et donc, ils ont exigé à ce que, au cours de ces assises, qu'on investisse aussi dans les infrastructures pour permettre l'évacuation de produits alimentaires, des milieux de production jusque dans l'assiette des consommateurs. Si ces ponts-là étaient en dur, je pense que le prix des maïs n'allait pas prendre l'ascenseur à Cabinda. En ce qui concerne les 12 services qu'il y a à Mwanda, le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, le ministre des Transports et Communications sont passés par là. Mais je vous dis qu'il y a des mesures qui ont été prises. Il y a, par exemple, le responsable militaire, bien sûr, de la police, le responsable de la police des frontières qui a été suspendu séance tenante. Et je vous dis que le Premier ministre a dit que les ports des Matadi et des Mwanda sont désormais sous les radars du gouvernement central. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce qui se passe là, ne pensez pas que restera impuni. Les amis qui sont à Mwanda doivent savoir qu'il y a des gens qui seront suspendus avant la fin de ce mois et même qui seront révoqués. Ça, le Premier ministre a promis, les mesures ont été prises et s'il constate qu'il y a une dizaine de services qui continuent à opérer là-bas, ils ne peuvent que dénoncer comme ils l'ont fait sur Radio Okapi. Je pense que le Premier ministre va suivre cette émission et surtout le ministre des Finances. On va dépêcher des équipes là-bas. Tous ces qui
tracassiers.
Font, toutes ces tracassiers-là seront arrêtés, si pas révoqués des services dans lesquels ils opèrent.
Panorama économique, reportage.
Les activités étaient paralysées ce lundi au Beach Ngobilam à Kinshasa. Les commerçants avec handicap qui importent des marchandises de Brazzaville via ce poste n'ont pas effectué leur traversée habituelle. Et pour cause, ce matin, ils étaient surpris de la décision de l'autorité déplaçant les guichets du Beach Ngobila vers le bureau de la Direction Générale des Migrations en plein centre-ville. Reportage réalisé par Nounungoy.
C'est cette ambiance qui a régné cet avant-midi à l'hôtel de ville de Kinshasa. Près de 600 personnes, tous des commerçants vivant avec handicap et fréquentant régulièrement le Beach Ngobila, sont venus exprimer leur mécontentement. Ces derniers ne sont pas du tout d'accord du fait qu'ils doivent désormais acheter leur laissez-passer au service de l'immigration au centre-ville. Thomas Amadi Mambou, secrétaire général de l'association des personnes vivant avec handicap du Beach, explique le mobile de cette grève.
On nous a surpris, on vient, on nous impose pour acheter les laissez-passer, pour la traversée. L'habitude, nous, vu notre mobilité difficile, nous achetons les billets et les laissez-passer au niveau du Beach. Mais on vient le matin, on nous surprend, si décision il semble du gouvernement que nous devons acheter les laissez-passer au niveau de Kinmazia. Or, avec notre condition physique, ça ne nous permet pas de prendre les premiers bateaux qui nous amènent à Brazzaville.
Ce n'est pas tout. Ces commerçants doivent également acheter le ticket de ceux qui les accompagnent. Pourtant, depuis des années, les aides handicapées ne payent aucun frais, comme l'explique l'un d'entre eux.
Naza aide handicapée. Et là, on va exiger que son habit, balobi que non, tout son bac a des billets. Papa n'a pas billet, n'a pas moi n'a billet. Or que là, on a commandé tout banda bit, n'a mis ça à la matière.
Même si cette journée a créé un manque à gagner dans leurs affaires, ces commerçants sont décidés à aller de l'avant, car cette mesure, prétendent-ils, constitue un frein au développement pour eux et pour l'État.
Nous avons nos quittances que nous payons journalièrement. Nous savons ce que nous versons dans les trésors publics chaque jour. Le montant que nous payons à la douane n'est pas fixe, parce que ça dépend de la quantité de la marchandise que nous importons journalièrement. Il y a des jours où nous venons avec beaucoup de marchandises, nous pouvons verser par exemple 3-4 millions la journée de francs congolais.
Merci Nounungoy et Jérôme. Nous tendons vers la fin de Panorama économique avec ce reportage au Beach. En tout cas, moi, je n'accuse pas les personnes vivant avec handicap, mais en tout cas, moi, je dis que c'est une grosse machine à fraude au Beach Ngobila. Ici, il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor public passant par ces gens-là.
Je vous dis, si vous avez un peu de temps, je vous inviterai à aller à la DGDA, au rez-de-chaussée, voir comment on fraude au Beach Ngobila à partir des caméras, de la vidéo surveillance qu'il y a là-bas. Ils ne savent peut-être pas. C'est une bonne décision. Ils ne savent peut-être pas. Il y a des caméras qui sont installées là-bas et qui peuvent voir jusqu'à 25 km, s'il vous plaît, qui sont là-bas. Et vous regardez le désordre qu'il y a là-bas. C'est pour remettre de l'ordre. Et nos amis, là, je pense que l'État doit trouver une solution durable. Ils doivent apprendre peut-être à faire autre chose, parce qu'il n'y a qu'en République démocratique du Congo qu'on vit des scénarios comme ça. Ils disent, ils payent quelles taxes? Ce sont des miettes. Le gros des marchandises passe par fraude. Donc, on ne peut pas leur faire des cadeaux indéfiniment. Et s'ils peuvent penser à autre chose maintenant, qu'ils commencent à réfléchir, parce que les taux est en train de se resserrer. Ça, c'est le rouleau compresseur qui est en train d'avancer pour remettre de l'ordre au niveau du Beach Ngobila. C'est une porte, une grosse porte d'entrée.
En RDC, on réagit, on manifeste donc, face à toute décision.
Ça n'a pas de sens. Mais, par contre, il faut qu'on voie clair du côté de nos amis là de la DGM. Il n'y a pas que les laisser passer. Il y a aussi beaucoup d'autres taxes. Hein, par exemple, les gens qui viennent ici avec un visa de tourisme, et du jour au lendemain, pouf, il a une autorisation, la green card, hein, le permis de séjour indéterminé. Il paye combien? Où va cet argent? Vous comprenez? Donc, il y a des choses. Donc, petit à petit, je pense qu'on est en train de remettre les choses en place. Il faudra que nos compatriotes qui ont bénéficié de beaucoup d'avantages pendant la Deuxième République comprennent que l'État a besoin des moyens. Et là, c'est un piège important pour encaisser l'argent pour l'État. Ce qu'ils donnent, ce sont des miettes. Vous savez ce qui se passe? Les personnes vivant avec handicap, la plupart des marchandises qui viennent passant par Pointe-Noire payent la douane au niveau du Congo-Brazzaville.
parce que ça vient en transit. Arrivé dans la ville de Brazzaville là-bas, on décompose des conteneurs entiers et ça passe sur le dos des gens, des petits colis. Oh, je ne paye pas parce que je suis personne vivant avec handicap. Ça, c'est du vol. Je pense que l'État doit voir comment on peut les réinsérer, voler à leur secours, c'est leur droit, ce sont des citoyens congolais. Comment on peut les encadrer dans d'autres secteurs pour leur apprendre les petits métiers, hein, au lieu de faire ce qu'ils font, c'est risqué pour eux-mêmes d'abord, et en plus, c'est un manque à gagner énorme pour la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Jérôme Sekana, pour ces analyses et commentaires. Ainsi prend fin Panorama économique de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radiookapi.net. Bob Landou était à la prise de son. Merci à vous aussi, Paul Matendo, de nous avoir accompagnés. Au revoir et bon week-end.